Est-ce que la culture est un simple divertissement ou est-ce qu'elle est le véritable ciment d'une ville? Pour moi, la création artistique n'est pas la cerise sur le gâteau, c'est le moteur qui permet à une société de réfléchir, de se réinventer et surtout de faire ensemble. Dans un monde qui se fragmente, la culture est sans doute un des derniers espaces de liberté et de rencontre. Pour en parler, je reçois quelqu'un qui a placé cette conviction au cœur de son action depuis des décennies. Élu écologiste à Saint-Herblain, près de Nantes, il s'apprête à quitter ses fonctions en mars prochain.
Juste après les élections municipales de 2026.
Ce moment de transition est donc l'occasion parfaite pour prendre de la hauteur sur son parcours. Mais bien avant les mandats, il a été pour moi et pour beaucoup d'autres un observateur attentif et un soutien de la première heure. Je l'ai vu encourager des projets hybrides, écouter des artistes émergents et défendre l'idée que l'émancipation citoyenne passe d'abord par la création. Il a été une présence structurante dans mon propre cheminement créatif, sans aucun doute. Aujourd'hui, alors qu'il s'apprête à clore ce chapitre politique, j'avais envie de comprendre sa vision. Comment on fait vivre la culture sur un territoire? Quel rôle pour l'élu face à l'artiste? Bonjour Jean-François et merci d'avoir accepté l'invitation pour cet épisode d'Ancréa.
Merci Manuelo, merci pour ton invitation.
Voilà, ça fait un moment, on se connaît depuis très longtemps et voilà, j'avais vraiment en tête et à cœur de t'inviter parce que tu as un parcours qui est très très enrichissant, qui est singulier. Toi vraiment, c'est particulier. Donc déjà, est-ce que tu peux commencer par nous parler de ton parcours et comment tout ça a commencé finalement?
Je vais essayer. Donc du coup, je pense qu'il faut souligner ensemble quatre choses qui m'ont sans doute marqué au démarrage. C'est la question de l'absurde qui m'a taraudé depuis ma tendre enfance. C'était quoi le sens de tout ça? Très vite, à côté de cette question de l'absurde, il y a eu la place de l'autre. L'autre qui est entre ces deux bornes de la littérature, l'enfer c'est les autres et l'enfer c'est l'absence des autres. Donc comment on se construit avec ça. Et puis il y a eu deux autres dimensions. Il y a eu la question du sens, puisqu'il y avait l'absurde. C'est quoi le sens qu'il y a en face de cet absurde? Et puis la question de l'émerveillement, parce que c'est quelque chose de fondamental pour moi. C'est la question pourquoi on se lève le matin, pourquoi on va à la rencontre de l'autre ou pas. Qu'est-ce qu'on fait de la journée? Est-ce que c'est si catastrophique que ça, ce qui va nous arriver, ou est-ce qu'il faut relativiser? Je suis plutôt pour relativiser. Bref, ça a été des mots qui m'ont accompagné très tôt. Et on ne peut pas passer sous silence non plus d'où je viens. Donc, je viens de la Bretagne, d'un département qui ne fait pas tous les jours parler de lui, le Morbihan. Sauf à un moment donné où c'était le département de France où on consommait le plus d'alcool, par exemple.
Ah bah ça, c'est encore d'actualité, je
Alors,
pense.
C'est dans... je crois qu'on est en compétition avec d'autres aujourd'hui. Ah, donc, on est un peu moins détachés. Et du coup, mes parents sont respectivement originaires de Questembert et de la Vraie Croix, donc pas très, très éloignés, puisque ça correspondait aux moyens de locomotion de l'époque, et donc ceci explique cela. Et du coup, dans cette réalité-là, la culture avait peu de place. En tous les cas, la culture qu'on estampille aujourd'hui comme culture, la culture avec l'accès aux œuvres, la culture des sachants, etc. Il y avait néanmoins d'autres cultures, la culture de la transmission, de ce qui se passait.
Oui, voilà, parce que tu parles de la culture des sachants, mais il y a d'autres cultures. On parle aussi de culture populaire, je pense qu'on pourra l'évoquer plus tard dans l'émission, mais voilà, il y a plusieurs niveaux, plusieurs grilles de lecture.
Complètement, puisqu'il y avait cette transmission généreuse de génération en génération, il y avait des histoires qui se racontaient au coin du feu, que ma grand-mère, une de mes deux grand-mères, nous narrait avec régularité. Et puis, il y avait aussi une générosité de voisinage, il y avait une solidarité dans les travaux des champs, et ces travaux des champs, je trouve, faisaient partie de la culture, et moi, m'ont apporté plein d'enrichissements. Une fois qu'on a dit ça, il faut qu'on explique l'arrivée de mes parents à Chantenay. Ils viennent à Chantenay, mais on pourrait presque dire qu'ils viennent s'échouer à Chantenay, comme d'autres Bretons sont venus s'échouer à Montparnasse. Et du coup, on parlait breton dans ce quartier de la ville de Nantes, ancienne ville ouvrière annexée en 1911. Et donc, dans ce lieu-là, j'ai appris les solidarités ouvrières, j'ai appris les rencontres des Bretons qui arrivaient des mêmes villages ou des mêmes communes et qui se retrouvaient le dimanche pour parler du pays. Et du coup, ça a été structurant. Dans mes jeunes années, j'ai participé à l'Action catholique des enfants. Et puis, au début de l'adolescence, vers 14-15 ans, j'ai commencé à rencontrer, puis à participer à la JOC, la Jeunesse ouvrière chrétienne, qui a été un choc, parce que c'était le temps des copains, le temps du collectif, et c'est un lieu qui était imprégné de l'éducation populaire. Donc, éducation populaire, c'est aussi des lieux de culture, on y reviendra sûrement, mais ça a été des moments importants qui, en plus, m'ont permis de prendre des responsabilités, puisqu'on m'a proposé d'abord des responsabilités à l'échelle d'un quartier, puis à l'échelle d'une fédération, et on m'a ensuite appelé comme permanent national. Au moment où on m'appelait comme permanent national, j'ai fait le choix d'habiter pendant un an et demi en foyer de jeunes travailleurs à Nantes, où je travaillais en même temps à Rezé, à la commune de Rezé. Et cet endroit, le foyer jeune travailleur, a été un moment important parce que c'est le moment où on se retrouvait dans une commission d'accueil des nouveaux résidents pour se dire d'où on venait, etc. Et il y a deux choses qui m'ont marqué. Il y a un jeune qui, un jour, vient à table et je lui dis... Où est-ce que tu travailles ? Ah, il dit, je ne sais pas, moi, je pose le bardage. D'accord. Donc, je me suis dit, on n'arrive pas tous avec le même capital quand on commence la vie active. Et puis, l'autre, c'est un jeune aussi, qui, alors qu'on lui posait la même question, il dit, je ne sais pas, je travaille dans un restaurant, mais je rentre par derrière. Donc, il ne connaissait même pas le nom du restaurant où il travaillait. Dans lequel il travaillait. Donc, ça m'a marqué. Mmh. Et du coup, on a discuté à quelques-uns et on a monté... deux choses. Un qui ne te surprendra pas, puisque je continue d'être un peu sportif, on a fait une animation sportive une fois par semaine où on partait courir, avec déjà la transmission des gestes qu'il fallait pour l'échauffement, pour la récupération. Et on a créé aussi la première commission culture du foyer de jeunes travailleurs, où on a invité différents conteurs, poètes, musiciens. Et je me rappelle d'une soirée notamment avec Yvon Etienne qui chantait la Bretagne engagée et qui a été une soirée formidable. Donc comme je te le disais, on m'appelle comme permanent, donc je démarre en février 86 jusqu'à l'été 89, où là je vais être sur différents territoires où je suis en responsabilité, Saint-Étienne, le sud-est de la France, Paris, Bordeaux, et où je rencontre plein d'acteurs, donc des acteurs de l'Église, des acteurs engagés en politique, avec qui d'ailleurs on monte des formations d'émancipation pour les jeunes, pour qu'ils comprennent c'est quoi l'engagement citoyen, pour qu'ils comprennent c'est quoi l'histoire du mouvement ouvrier. Et on a des rencontres très très riches où les jeunes s'enthousiasment de cette proposition, posent plein de questions. Et la question de l'émancipation, on y reviendra tout au long de cette émission sans doute, mais c'est un mot qui est structurant également pour moi. L'éducation populaire accompagne toutes ces années de permanent pour se dire que c'est ensemble qu'on crée les choses, c'est ensemble qu'on prend conscience et c'est ensemble qu'on s'engage. Donc, à la fin du mandat, avec Catherine, on fait le choix d'habiter pendant quelques années sur le quartier des Dervalières à Nantes, ça durera 10 ans. Une pépinière de vie, une pépinière d'engagement, une pépinière de rencontres.
De rencontres, c'est là qu'on se rencontre.
Absolument. C'est là qu'on se rencontre. Et c'est là que je fréquente la Confédération syndicale des familles et qu'on monte au début des années 90 la Presqu'île, qui est un lieu d'accueil pour les enfants, pour permettre aux parents de participer aux réunions qui leur sont proposées à l'école, etc., pour un engagement dans la vie citoyenne que l'on met dans le préambule de l'association. Donc on rencontre des gens d'origine différente qui nous enrichissent de leur histoire, de leur parcours, et je participe à quelques événements proposés par la bibliothèque de quartier, et dans cette déambulation sur le quartier, trois jeunes viennent me voir pour me demander d'être président de la maison de quartier. Et après réflexion, je leur dis « D'accord, si vous rentrez au conseil d'administration avec moi, parce que j'aime pas les histoires esselées, j'aime bien les aventures collectives, et donc je leur dis « Voilà ce que je vous demande qu'on compagnonne ensemble. » Donc certes, j'assumais la responsabilité de président, mais on a créé le premier bureau de la maison de quartier, et pour ta question sur le parcours culturel, on a accueilli sur la maison de quartier des compagnies qui sont rentrées en relation avec les habitants. Donc je me souviens de Parole de Marmite, par exemple, qui était une compagnie qui s'attachait à transmettre les histoires de la ruralité pour que ça puisse enrichir la vie des citadins. Et donc il y avait dans ces histoires des histoires qui mêlaient les trolls, les magiciens, les princesses.
Ben oui. Et comme on disait en off un petit peu, les trolls, les magiciens, les princesses, donc il faut se resituer, donc on est au Dervalière, donc qui est un quartier, on va dire une banlieue dite encore sensible, en tout cas selon la considération de certains. Est-ce qu'il n'y a pas eu justement là un choc des cultures?
Alors, il y a eu un choc des cultures, mais que, par discussion, on a réussi à transcender. Mmh. Avec la ville de Nantes, il y a eu cette idée magique du théâtre d'appartement.
D'accord.
Et donc, dans ces théâtres d'appartement, on invitait nos voisins chez nous, ou on allait chez des voisins proches ou éloignés du quartier, à écouter un chanteur, un conteur, musicien. Et je me souviens notamment d'un conteur berbère qui est venu à la maison et qui nous a enrichi de ses histoires, et où tout le monde était les yeux écarquillés. De même que Yannick Jolin, que certains qui nous écoutent connaissent, est venu à la maison aussi et a participé à une histoire de conte tout le long d'une soirée. Donc, il y avait ces éléments-là. On a eu aussi une troupe de théâtre en résidence pendant 2 mois sur le quartier des Dervalières, et on a pu régulièrement participer aux restitutions dans l'évolution de la pièce, et j'ai trouvé ça magique parce que je me suis dit, même les travaux d'acteurs en fait portent de la culture, et il n'y a pas besoin juste d'avoir le produit fini pour s'émerveiller. Tout au long des étapes, on peut goûter aux saveurs du théâtre et d'une construction.
Tu me parlais de ton parcours, donc tu arrives au Dervalière. Au Dervalière, on le sait, donc il y a un quartier, pour ceux qui ne connaissent pas, donc, dans Nantes. Au Dervalière, il y a beaucoup de nationalités différentes, beaucoup justement de cultures différentes. Comment est-ce que toi, tu t'es enrichi de ça, et comment est-ce que tu l'as utilisé? Enfin, en tout cas, comment ça t'a nourri?
Ça ne m'a pas quitté. Mmh. En fait, on a eu très vite des copains de Madagascar, mais aussi des copains laotiens, des copains de la Guinée, des copains qui venaient du Maghreb. À l'époque, il y avait 19 nationalités au Dervalière. Mmh. Je ne sais pas s'il y en a un peu plus ou un peu moins aujourd'hui. Mais tout ce monde-là, non seulement nous, on les côtoyait dans les différentes activités ou dans notre proximité de voisinage, mais les enfants les côtoyaient aussi à l'école. Et je me souviens de Afif qui demandait un jour à Paul, mon aîné, Paul, qui est-ce qui est le plus méchant à l'école? Est-ce que c'est Omar ou est-ce que c'est Denis? Et Paul dit, ben, c'est celui qui me donne le coup de pied le plus dur. Et ce n'était pas du tout lié à, à la couleur de la peau, puisque c'était son quotidien. Et je trouve que c'est un des enseignements. Mais un autre enseignement, des copains laotiens qui habitaient en dessous de chez nous viennent un jour nous taper à la porte et dire, est-ce que vous voulez bien être le parrain et marraine d'une de nos filles? Et donc, forcément qu'on a accepté.
Quel honneur.
Mais qui sont toujours des amis aujourd'hui. Donc voilà, c'est, la vie, elle était celle-là, enrichie de ceux qui avaient ces parcours d'immigration, ces parcours entre leur pays d'origine et la France. Et on essayait modestement de les accompagner au plus possible parce que c'est, il n'y avait pas les Français de première, deuxième ou troisième zone, mais il n'y avait que les Français.
Tu as accompagné pas mal de projets culturels. Qu'est-ce qui, c'était quoi le moteur? C'était quoi le moteur de cet engagement à tes débuts?
Que chacun puisse participer. Ça, c'est côté spectateur. Et côté acteur ou ceux qui avaient des propositions à faire, c'est qu'il y ait la possibilité que ça existe, que l'on puisse garantir une transmission, une promotion, une faisabilité. Ça, c'était important pour moi parce que je ne voulais pas que, que l'on puisse se dire durablement « Eux, on fait le conservatoire, c'est normal, ils y arrivent. Eux, on fait une école de théâtre, c'est normal qu'ils y arrivent. » Tout le monde avait le droit et la possibilité de pratiquer ces choses-là. Et par exemple, pour expliquer ce qui nous animait, on a milité pour que Royal Deluxe vienne sur le quartier. On a ferraillé pendant des années. Ceux qui suivent l'activité ont vu qu'il y a quelques années, les marionnettes grand format de Royal Deluxe sont venues aux Dervalières. Donc, à force de pousser, on arrivait à cela. De même que dans le cadre des Folles Journées, on a demandé à ce qu'il y ait des spectacles et des productions qui se fassent en maison de quartier. Et je me souviens d'une des éditions où on avait, pour jouer du Beethoven, à la fois un groupe classique, avec des instruments classiques, et du coup, avec un public classique, et on avait des rappeurs qui ont joué du Beethoven et qui, avec l'orchestre de musique classique, se sont ajustés pour faire cette proposition originale et avec un public qui était plutôt du côté des jeunes. Et à la fin, quand moi j'ai vu ces spectateurs discuter entre eux et aller se chercher sur qu'est-ce qu'était leur motivation, je me suis dit, là, on a fait un pas vers de l'interculturalité.
Tu parlais d'émancipation et tu as dit que ça a permis à pas mal de personnes que tu as côtoyées de peut-être se découvrir des vocations, ou en tout cas de s'y intéresser aussi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette notion d'émancipation et comment toi, est-ce que tu en as été témoin dans ton parcours?
Alors, j'en ai été témoin de plusieurs manières. Sur les quartiers, on avait par exemple des murs d'expression qui étaient en lien avec les envies de graphe qui existaient chez les jeunes. Et donc, on a essayé de faire en sorte que ces murs de graphe ou des murs disponibles sur des bâtiments, soit qui étaient voués à la démolition ou soit qui étaient bien debout et pour des années, puissent être des tableaux disponibles pour que les jeunes puissent graffer. Donc ça a été important. Sur la culture de rue, on a donc suivi les aventures de Royal Deluxe, dont je parlais tout à l'heure. Je suis un peu moins fan de ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, mais l'arrivée des géants à Nantes, c'est quelque chose qui a bouleversé la ville. Bouleversé la ville. Mes enfants ont grandi avec Royal Deluxe.
Bah, c'est un symbole de la ville, on ne peut pas le nier. En tout cas.
Carrément. Oui. Et Côté habitants, je trouve qu'il y a eu des chocs qui ont été concomitants entre le début de Royal Deluxe et la fin des Allumés. Les Allumés, pour ceux qui s'en souviennent à peine, c'est le début des années 90 où pendant 6 années, il y a eu une ville qui a été mise à l'honneur. Et cette ville s'est produite dans tous les lieux improbables de la ville de Nantes, des anciens hangars, la rue Cargo 92, rappelez-vous, avec Buenos Aires, c'est un cargo qu'on aménage pour qu'il y ait une ville reconstituée en bas, avec des échoppes, et dans cette rue à fond de cale, on danse le tango.
C'était à quelle période, ça? Je devais être un peu jeune, moi, encore.
C'était, les premières éditions, c'était entre 90 et ça a terminé 6 ans plus tard, donc 96. Ouais. Et Cargo 92, comme son nom l'indique, c'était en 1992. Et donc, après une semaine folle au rythme de Cargo 92, le cargo s'en va pour Buenos Aires, quand même. Il y avait un peu plus d'argent, non pas facile, mais choisi pour être en direction de la culture, ce qui est un peu différent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a d'autres choix de fait, mais là, il y avait ce choix fort, et le départ de Cargo 92 se fait avec un feu d'artifice, beaucoup de superlatifs, et le groupe de la Mano Negra sur le bateau, mettant le feu à l'ensemble du port de Nantes.
Incroyable, incroyable. Je fais une parenthèse parce que alors je pense qu'il y en aura d'autres des parenthèses, puis de toute façon l'intérêt c'est de discuter, parce qu'il y avait encore de l'argent qui était pour la culture. Alors c'est un peu sous-entendu qu'aujourd'hui on se rend bien compte des coupures budgétaires, ça, voilà. J'ai l'impression que tu me dis que finalement, on a d'autres priorités aujourd'hui. On aurait d'autres priorités aujourd'hui.
Mais c'est indéniable. Alors, je ne sais pas jusqu'à quel point on peut faire de la politique dans cette émission, mais les coupes sombres de Christelle Morançais à la région ont entraîné une fragilisation d'un certain nombre de compagnies, mais une disparition d'entre elles dès 2026. Donc c'est ça l'incidence.
De toute façon, comme je disais, politique et culture, c'est tout à fait lié. Et moi, ce que je trouve effectivement déplorable, c'est de se dire que c'est pas indispensable, que c'est pas essentiel. C'était une parenthèse que je voulais faire, parce que c'est un peu la différence entre hier et aujourd'hui, j'ai l'impression. Qu'il y avait un peu plus, cette importance donnée.
Et de volonté politique. Ça nous amène sur le champ politique, mais il y avait plus de volonté politique, et notamment dans les villes de gauche. Et plus de volonté de ce qui pétille, de ce qui va surprendre, de ce qui va accompagner, de ce qui va donner du sens par rapport à un mot qu'on a interrogé en début de rencontre. Mais cette phrase qui a été longtemps apposée sur le mur de Trampolino à Chantenay, Trampolino qui a été déplacé ensuite sur l'île de Nantes, mais qui existait là et qui était un creuset pour permettre à des jeunes groupes de musiciens de répéter pour des prix défiant toute concurrence, sans gêner le voisinage parce que les studios étaient bien isolés. On a d'ailleurs, on va en reparler tout à l'heure, reproduit ça à Saint-Herblain avec Terminus 3. Mais sur le mur de ce lieu de culture, on avait inscrit « La culture coûte cher, essayez l'ignorance ».
Mais pour ceux, c'est pas mal, oui.
Pour ceux qui suivent l'actualité d'aujourd'hui, et il y avait encore une émission sur France Culture il y a 15 jours qui parlait de la paupérisation des sensibilités et de la culture présente chez les sachants du monde et chez les grands acteurs économiques. Pour moi, c'est dramatique, parce que ça veut dire que tout est possible à partir du moment où on n'est plus animé par ce qui fait le sens de notre humanité, soit la culture.
Donc, j'en reviens un petit peu à ton parcours. T'es engagé sur les Dervalières, dans beaucoup, beaucoup de d'association que tu crées ou que tu accompagnes. Il y a aussi l'engagement avec la JOC. Comment est-ce que tout ça t'amène à la politique ?
Quand je suis permanent fédéral à la JOC au début des années 80, à Nantes, je participe, parce que chacun avait des responsabilités complémentaires, au collectif qu'on appelait France-Amérique latine, qui travaillait avec ceux qui avaient été marqués par le Chili et ceux qui étaient investis dans l'expérience du Nicaragua. À l'époque, c'était un vrai espace de rêve et de projection, parce qu'il s'y passait plein de choses intéressantes sur l'éducation, sur la culture, sur le fait que la pauvreté puisse à terme être éradiquée, que la culture, que l'éducation puisse être accessible à tous. Et donc ce collectif France-Amérique latine menait des actions de soutien aux pays d'Amérique latine par des fêtes, des ventes d'objets, de nourriture, etc., qui permettaient des subsides pour les expédier là-bas. Et ça permettait aussi une prise de conscience ici, pour se dire, notre culture, elle n'est pas que française, elle est de plein d'endroits, et la France était une terre d'accueil aussi pour des exilés politiques qui étaient en difficulté dans leur pays. Et dans cette discussion et cet engagement auprès de France Amérique latine, je côtoie des gens qui étaient en responsabilité, etc. Et en 92, il y a des élections régionales, et une des listes qui se présente était une liste composée d'un tiers de l'alternative Rouge et Verte, un tiers de Génération Écologie et un tiers de responsables issus du monde associatif ou du monde syndical. Et on vient me chercher.
D'accord.
Parce que je suis revenu depuis peu d'un mandat national à la JOC, parce que je suis déjà syndiqué, et on me dit, on a besoin de gens comme toi, en plus qui a fait le choix d'être engagé aussi dans les quartiers populaires. Je viens très naturellement, je dis oui, et c'était une aventure fondatrice pour mon engagement politique, parce que j'ai rencontré des gens qui avaient plus d'expérience que moi, qui avaient une réflexion politique, et ça ne m'a pas quitté, la question de la réflexion politique, c'est-à-dire qu'on a besoin de penser pour imaginer, pour créer. Celui qui n'a pas ça, de fait, est en panne. Et donc, on vit une super aventure, et les trois élus, comme conseillers régionaux, font le choix de mettre la moitié de leur indemnité dans la création d'une jeune association, Écologie Solidarité, qui, parce que on a... Et les adhésions de ceux qui adhèrent et les participations mensuelles de ces trois conseillers régionaux, on peut embaucher une permanente à mi-temps qui anime, du coup, qui coanime, puisqu'on avait tous une responsabilité de commission, des commissions sur la culture, sur l'éducation, sur l'urbanisme, etc. Et donc, c'est un creuset magnifique pour parfaire, pour émanciper, pour construire une pensée et un engagement. Et du coup, ça commence à me trotter dans la tête. Et en 94, il y a une liste qui se monte, qui était issue des écologistes, des régionalistes, de Génération Écologie et de l'alternative Rouge et Verte. Et on me dit, tu pourrais être candidat, ce serait bien, pas de problème. En fin de compte, au lieu d'être candidat à ce moment-là, j'ai été collaborateur auprès des élus, et ça m'a été très bien. Et donc, du coup, je déambule et je me construis mais je ne suis pas encarté dans un parti politique. À l'époque, je suis plutôt compagnon de route de l'alternative Rouge et Verte. Et du coup, dans cette construction, je rejoins, quand on arrive à Saint-Herblain, une association politique qui s'appelle Ensemble Saint-Herblain Autrement.
D'accord.
Et qui a déjà trois élus au sein du conseil municipal et qui prépare déjà les élections de 2001. et où on se dit peut-être qu'il y a possibilité soit de faire une liste autonome ou soit de faire équipe avec la majorité. De fait, la majorité n'a pas souhaité qu'on fasse liste commune. Mal leur en a pris, puisqu'on a obligé, pour la première fois depuis 1977, un deuxième tour pour les élections municipales de 2001, ce qui est un peu déplu à la majorité socialiste et communiste, mais c'est la vie. Et donc, du coup, on a été 5 élus, et moi j'avais demandé à l'époque de ne pas être directement en haut de la liste, parce que j'étais en études lourdes pour réussir le concours d'ingénieur, ce que j'ai réussi, mais ce qui me permettait aussi de ne pas être dépendant de la politique et de toujours avoir cette possibilité de faire autre chose le jour où, par exemple, je ne voudrais plus être collaborateur d'élu. Et donc, du coup, on compagnonne, je rentre au conseil municipal en 2004. Entre-temps, on est arrivé à Saint-Herblain, y habiter en l'an 2000. Et donc, outre l'engagement au niveau de Ensemble Saint-Herblain Autrement, il y a un engagement aussi dans les centres socioculturels et une appétence qui se prolonge pour la culture. J'avais déjà participé, comme je le disais rapidement tout à l'heure, à un atelier de théâtre entre 92 et 96, déjà à Saint-Herblain, puisque Saint-Herblain et Nantes, ce n'est pas très, très éloigné. Et donc, je continue à goûter, à savourer des spectacles, des représentations, des travaux d'acteurs qui me passionnent. Et en tant qu'élu minoritaire, je participe, à partir de 2006, je crois, à la commission culture municipale, où je rencontre des acteurs et ça me plaît beaucoup. Donc, du coup, pas un peu naturellement, mais quand même, en 2008, je me retrouve dans la majorité, parce qu'on a mené une négociation, et avec le portefeuille d'adjoint à la culture. Donc là, c'est un moment magique et extraordinaire, parce qu'on peut soutenir plein de projets, on a eu une vie avec des artistes, on va tous les ans en Avignon, on voit d'un peu plus près ce que c'est les besoins d'une compagnie, on soutient la création. Je le disais tout à l'heure, on fait en sorte que des jeunes groupes de musiciens puissent être accompagnés à travers Terminus 3, parce qu'on ne leur mettait pas simplement un local à disposition, mais on leur permettait d'enregistrer, quand le travail était de qualité, un premier CD, par exemple. Et donc, on co-finançait ce premier CD. Donc, quand on disait tout à l'heure, c'est une question de volonté.
Il y a même un rôle. Ça fait partie de la mission publique, mais il y a même un rôle de producteur, finalement.
Aller jusqu'à les moyens donnés et permis pour de la production et pour rayonner. Pour le clin d'œil, puisqu'on est à Saint-Nazaire, a été accompagné pendant plus de 2 ans sur le dispositif Terminus 3, une certaine Zao de Sagazan.
De Sagazan. Zao de Sagazan, elle a été accompagnée. Absolument. Donc par... Ah, c'est extraordinaire.
Absolument.
Et on voit où est-ce qu'on est maintenant. Absolument. Donc, ça a plutôt bien marché.
Et d'ailleurs, elle-même, il n'y a pas de mystère, a baigné dans un univers culturel familial pendant des années, qui lui a permis d'avoir cette émancipation-là. Et donc, je parlais de rencontres dans ce moment où on a été adjoint, il y a eu la troupe de Pippo Del Bono, que certains des auditeurs connaissent peut-être, mais Pippo Del Bono, qui est un acteur, metteur en scène, dénicheur italien, montre régulièrement des pièces de théâtre à partir d'événements ou à partir de problématiques. Et sur scène, il y a beaucoup d'acteurs improbables qui viennent de la rue, qui sont trisomiques, qui, pour un d'entre eux, paie à son âme, même s'il a accompagné pendant presque 20 ans avec la compagnie, Bobo vient d'hôpital psychiatrique. D'accord. Bobo ne savait ni lire ni écrire.
Waouh.
Il était sourd et c'est un des artistes les plus extraordinaires que j'ai pu voir. Je cite deux éléments qui donnent à penser. Je l'ai vu sur la scène du Théâtre du Rond-Point à Paris, alors que sur scène, il y avait une dizaine d'acteurs, dont une danseuse étoile qui était en train de réaliser des entrechats. Et Bobo, avec sa canne, accompagnait l'entrechat dans ce que j'appelle la pureté du geste de l'artiste quand, après des années et des années de labeur, on arrive à cette précision. Ça, c'est un des gestes qui m'a ému aux larmes. Et l'autre chose, c'est que en Avignon, la première pièce que j'ai vue de Pippo Del Bono, c'était La Manzonia, qui avait été pensée à travers un drame vécu dans l'usine Krupps au sud de l'Italie, où les salariés étaient très maltraités. Il y a eu un incendie et tout le monde a essayé d'étouffer, le monde politique, le monde d'église, pour ne pas faire de vagues. Et donc, cette pièce devant un aéropage de spectateurs de la France entière et sans doute au-delà, assiste à là, c'est le coup de poing dans l'estomac. Et la fin de cette pièce, Pippo Del Bono, de notoriété mondiale, arrive nu sur scène, tenant par la main Bobo, son compagnon de route, qu'il avait dénéchi dans un hôpital psychiatrique. Et Bobo lui donne les habits dont il a besoin pour se revêtir. Donc venant du peu, c'est ça qui offre à un grand metteur en scène acteur du monde les habits dont il a besoin pour se revêtir. Bon, ça c'est des choses que...
Ah, c'est magique. Ouais.
Que c'est le magique. Théâtre peut offrir, mais auxquelles, hélas, tout le monde n'a pas accès.
Et ça dit aussi que malgré le handicap, malgré
le dénuement,
on peut transmettre de l'émotion.
Carrément.
On peut raconter des histoires, transmettre des émotions et marquer.
Et alors, le mot que vous prononcez est exceptionnel, le mot émotion, parce que j'ai dit dans un adjoint de culture est invité à discourir assez souvent, et je terminais souvent mes propos sur débarrassez-vous du jeu des acteurs, de la mise en scène, de ce qui est dans le matériel, pour garder en vous par quoi vous êtes touché et comment vos émotions sont sollicitées pour savourer ce qui vous est proposé. J'ai vu des jeunes qui, ensuite, ou des moins jeunes, qui sont venus me voir en disant « C'est bien ce que vous dites sur les émotions, parce que c'est effectivement quelque chose de crucial pour être vivant. »
Alors, justement, on parle d'émotions transmises. Tu as dit que tu avais pleuré sur cette prestation donc de Bobo, qui était magistrale. Est-ce que y a un projet comme ça, ou même plusieurs, qui t'a marqué réellement, qui t'a transmis une émotion particulière, et peut-être qui t'a donné la force de continuer, ou même de progresser dans ton parcours, par exemple?
Alors, rappelle-toi, en début d'émission, je parlais de l'émerveillement. Et donc, du coup, il y a toujours eu une place pour ça dans mon parcours. Et dans des événements avant d'arriver à Saint-Herblain qui m'ont touché, mais vraiment à l'os et au cœur, ce premier spectacle d'Yvon Etienne au Foyer des Jeunes Travailleurs, où on était dans un spectacle de grande proximité, ça a été magique, où il y avait l'émotion à fleur de peau. Mais pour avoir participé sur le quartier des Dervalières, que ce soit dans les spectacles qu'on citait tout à l'heure, mais aussi dans des propositions culturelles faites par des gens qui habitent le quartier. On avait une fois par an, je crois que ça existe toujours, la messe des peuples,
oui,
dans l'église de Saint-Laurent-des-Dervalières, où il y avait des danses qui nous venaient d'Haïti,
oui,
des danses qui nous venaient de Madagascar, des danses qui nous venaient du Sénégal, et où, à la fois sur un côté religieux, mais aussi un côté très incarné, on avait cette expression et cette transmission auprès d'une assemblée qui était enrichie par cette culture venue d'ailleurs. Et donc, tous ces moments-là ont été des moments qui ont alimenté et mes émotions et mon émerveillement. Mais on parlait des allumés tout à l'heure. Oui. J'ai vu des derviches turners dans un local désaffecté au bas de Chantenay nous envoûter. Le mot n'est pas de trop. De leur danse pendant des dizaines de minutes sans s'arrêter et en nous mettant à la fois leur danse, les lumières de leurs habits et leur musique en tête, où nous ne faisions qu'un, le un étant un personnage public collectif. Et ça, c'est extraordinaire. Je citais Pippo Delbono tout à l'heure. J'ai participé à une émission de radio avec lui à Jet FM. Cette émission de radio me laissera des émotions toute ma vie. Je me souviens qu'alors que Pippo Delbono expliquait son travail avec minutie, il interpelle le journaliste à un moment donné en disant « Mais vous avez deux invités aujourd'hui ?» Je suis, merci de m'avoir invité. Mais vous avez aussi Mathilde en juillet, qui, je crois, a produit un disque. Je souhaiterais pouvoir l'entendre. Et donc, le journaliste s'est prêté à cette interpellation et a posé quelques questions à Mathilde en juillet sur ce qu'il avait animé pour produire son disque, etc. Et je me souviens de Pippo Delbono qui se tourne vers Mathilde. Donc, qui témoigne de sa grande disponibilité, malgré le fait qu'il était forcément envahi de toutes ses productions en cours, à venir, etc. Il dit, mais Mathilde, expliquez-moi, pourquoi à 25 ans, on fait un album? Et donc, Mathilde se prête au jeu, et elle dit, pour laisser une trace. Très bien. Mathilde, en juillet, 8 mois après, décédait prématurément d'un cancer. Pour moi, il y a eu cette intuition de Pippo sur il y a quelque chose qui dépasse la logique habituelle de fabrication d'une œuvre artistique. Et je trouve ça magnifique, parce que si ça, ce n'est pas de l'émotion à l'état pur, ça y ressemble quand même, quoi.
Et il y a cette notion aussi de ça rassemble les gens, finalement. Un spectacle, une œuvre, ça... Il y a cette dimension du vivre ensemble qui est sublimée, qui est mise en avant en tout cas.
À l'époque, quand j'étais adjoint à la culture, on avait les années phares de jours de fête. Jours de fête accueillaient des artistes du monde entier. Et tout le monde pouvait y accéder puisque à l'époque, on avait fait le choix d'une entrée libre.
D'accord.
Donc, je donne la précision, non pas une entrée gratuite, une entrée libre.
Oui.
Parce qu'il n'y a pas de gratuité dans les actions publiques et les actions culturelles. Ça a un coût pour quelqu'un.
Bien sûr.
Hein? Donc, mais on peut dire que les citoyens payaient à l'époque des impôts locaux encore plus qu'aujourd'hui, puisqu'on a supprimé la taxe d'habitation, donc participaient d'une certaine manière. Ça n'empêche que c'était un vrai choix politique. Et que ce soit avec le théâtre de rue ou dans les propositions sur scène, on avait des déambulations de jeunes, de moins jeunes, qui faisaient transmission. Parce que les parents emmenaient les enfants, parce que les ados venaient avec leurs petits frères ou petites sœurs plus jeunes. Et je passais du temps, en tant qu'adjoint, à regarder ce qui se passait. Et de voir ce qui se transmettait à travers la musique, à travers le théâtre, etc. Et je trouve que on ne retrouve pas assez aujourd'hui ces moments populaires généreux qui fondent une commune et qui font société. C'est ça qui donne du sens, où on se pose pas la question est-ce que t'es autorisé ou est-ce que t'es pas autorisé. Tout le monde peut venir. C'est magnifique.
Et en relation justement avec ce que tu dis, est-ce que toi, tu as constaté un impact concret sur les habitants, sur les personnes que tu as pu accompagner, des actions culturelles que tu as pu mener dans tes différents rôles?
Alors, je retiens trois exemples de ce ce à quoi j'ai participé quand j'étais adjoint à la culture, on a fait le choix de soutenir un peu plus les hivernales. Hivernales, c'est un festival qui se passe au sein des centres socioculturels de la ville. Mmh. Les centres socioculturels ont forcément une valeur importante pour moi parce que c'est un lieu qui mixe éducation, transmission, éducation populaire, culture, et donc qui a de la valeur. Mmh. Et dans ces lieux-là, j'ai vu des habitants qui ne venaient pas à Onyx, par exemple, le théâtre de la ville, oui, mais qui venaient aux propositions culturelles sur les quartiers. Et qui, pour quelques-uns, après être venus un an ou deux aux hivernales, venaient à Onyx parce qu'en plus, on créait des passerelles pour que ça puisse se faire.
Petite parenthèse, un petit mot sur Onyx, puisque donc, tu en as été
le président.
Donc, le président alors, si je comprends bien, c'est dans le cadre de ton rôle d'adjoint à la culture. Comment est-ce qu'on se retrouve président d'Onyx, tout simplement?
Eh bien, on se retrouve parce que, d'une part, on a montré une appétence, parce qu'il y a des négociations politiques à un moment donné qui font qu'il y a un certain nombre d'adjoints qui sont à destination, là c'était des écologistes et citoyens de la ville de Saint-Herblain, et puis après il y a une négociation sur les responsabilités, les délégations qui sont attribuées aux uns et aux autres, et du coup j'avais sans doute dit mon appétence pour ce secteur-là, et par un concours de circonstances, parce que au départ c'est pas parce que je disais que j'avais une appétence que j'estimais que j'allais être nommé, et donc ça a été forcément un immense honneur, mais du coup après mécaniquement quand on était adjoint à la culture, le plus souvent on était président du théâtre de Saint-Herblain.
D'accord, et donc pour reprendre où t'en étais, là-bas t'as pu
j'ai pu avec le directeur faire des choix sur les résidences financées ou cofinancées par Saint-Herblain. On a fait des choix pour qu'il y ait la culture du cœur, où il y avait la proposition que les participants puissent, sur leur abonnement notamment, participer à quelques euros de plus, et du coup, en lien avec des publics qui financièrement étaient empêchés de venir au théâtre, puisse avoir des places mises à disposition pour venir goûter à quelques pièces, à quelques spectacles. Et ça, c'est, je trouve, dans le côté permettre, est un endroit extra. Je continue, si tu veux bien.
Bien sûr.
Pour donner deux autres exemples. Un, avec le début du mandat, on a fait le choix, qui était inscrit dans notre programme, que la lecture soit en accès libre pour tous les résidents herblinois.
D'accord.
Avant, c'était les moins de 18 ans. Et là, on a dit, pour tout le monde qui sont habitants à Saint-Herblain, il y aura un accès libre à tout le service de la médiathèque. Mmh. Donc, que ce soit la médiathèque Herneland ou que ce soit les médiathèques qui sont disséminées dans l'ensemble de la commune. Mmh. Et dans le côté autorisation, j'avais demandé au maire que cette délibération, qui était une délibération de mon point de vue très, très structurante, très marquante pour une commune, fasse l'objet d'une suspension au conseil municipal avec une introduction d'une compagnie qui venait, par un jeu d'acteurs, donner une carte à chacun des élus de la ville pour donner l'exemple avant que les citoyens puissent avoir la même chose avec un jeu d'acteurs. Et donc, ça avait été forcément apprécié, mais ça m'avait valu, de la part du directeur de la médiathèque, cette remontrance. Je ne savais pas que la politique culturelle se faisait avec une compagnie maintenant. Non, ça n'a pas changé par rapport à ce qui existait jusque-là, mais c'était l'occasion de marquer les esprits sur une promesse phare du programme municipal.
D'accord. Donc, t'as, alors j'imagine pas tout seul, mais fait beaucoup preuve d'initiative et d'innovation aussi, si je comprends bien.
La troisième qui me tient presque le plus
oui.
à cœur,
oui, oui.
c'est que on a découvert, grâce au groupe Calypse, mm-hmm. Groupe de steel drum sur Saint-Herblain, qui a fait la promotion et qui déjà à cette époque-là avait une activité dans les temps forts herblinois avec des jeunes ou des moins jeunes qui jouaient du steel drum et qui avaient des morceaux joués rien qu'avec cet instrument. On a pris l'initiative de faire en sorte que toutes les classes de CM1, CM2 de la ville, avec la priorité sur les quartiers d'habitat social, puissent pratiquer le steel drum. L'avantage du steel drum, c'est un instrument d'oreille.
Oui.
Et on n'a pas l'obligation d'apprendre le solfège pour jouer du steel drum, ce qui représentait un avantage pour des jeunes en échec scolaire ou en difficulté scolaire. Et donc, fort de ce jeu, ces enfants se sont retrouvés à jouer sur des temps forts de quartier, sur des temps forts de la ville, où ils étaient mis à l'honneur parce qu'ils maniaient collectivement cet instrument de musique. Et donc, quand j'ai pu constater, les années qui ont suivi la mise en place de cette mesure, que le nombre de participants et d'acteurs de la Maison des Arts soit notre auditorium municipal,
oui.
notre maison de musique municipale, était enrichi d'un apport des jeunes des quartiers d'habitat social, quand jusque-là, les pratiquants étaient des jeunes de classe moyenne et de classe sup, je me suis dit, bon, on a réussi ça quand même.
Ah oui, et bah oui.
Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'on a fait en sorte, parce que le directeur de la Maison des Arts, qui est aujourd'hui le directeur des affaires culturelles, était vraiment un gars très, très féru de musique. Toutes les musiques, il fait partie des rares à avoir l'oreille absolue.
Ah oui, ah oui.
Et donc,
effectivement.
Sensible à tous les sons. Et Jean-François Fourichon a fait en sorte, avec quelques autres, que le steel drum puisse participer aux folles journées.
Ah là là, ah oui, effectivement, là aussi, une forme de choc culturel. Alors, peut-être pas de choc culturel, mais en tout cas, de deux mondes qui ne se rencontrent pas tous les jours.
Carrément. Et je me souviens d'un moment, quand on parle d'émotion, j'ai versé une larme. Ces jeunes se sont retrouvés à jouer dans la partie mezzanine des folles journées, l'Ave Maria.
Oh, ouais, ça devait être exceptionnel. Ouais.
Il n'y avait pas un mot. Il n'y avait pas un mot. Et à la fin, il y a des spectateurs qui sont venus me voir parce qu'ils savaient qu'on était à l'initiative. Et où sont les autres instruments de musique? Je dis, ben non. Je dis, c'est ça la magie du steel drum. C'est qu'on a l'impression qu'il y a plusieurs instruments de musique et tout est fait en un.
Oui, oui. Et puis ça permet à deux mondes, deux classes. Alors, est-ce qu'on peut parler de classe? Mais en tout cas, deux types de populations qui se fréquentent peu, de se rencontrer finalement. Voilà, donc ouais, c'est exceptionnel, effectivement. Donc alors, maintenant je vais te parler de la question de transmission, puisque avec tout cet enrichissement, ce parcours, je sais que tu as pu transmettre cette fibre à un de tes enfants, puisqu'il a suivi le chemin de la culture en étant comédien. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur
Manuelo, ce qui te surprendra pas, c'est que sur la question de la transmission, avant de parler des fistons, je dise aussi comment la question de la formation des responsables jossistes à l'époque,
oui.
des responsables associatifs sur les Dervalières, ou depuis maintenant 8 ans, des militants politiques ou des élus politiques, je sois animé par cette question-là.
Oui.
Et ce n'est pas pour rien que je suis administrateur du CEDIS, qui est un organisme de formation des élus écologistes, mais pas simplement encarté chez les écologistes, au niveau national, où on a à cœur de transmettre ce dont on a besoin pour être élu et pour être le moins possible en difficulté. Mais sur ta question, tous les enfants ont des choses qui viennent, qui essayent d'être transmises par les parents. Pour ce qui concerne Mathieu, qui est en école d'art dramatique, pas simplement par immodestie, j'inviterais à ce qu'on puisse aussi lui poser la question en direct.
Bien sûr, bon. Bien sûr.
En revanche, Manuelos, je ne fuis pas la question. Ce à quoi je me suis attaché, pour les trois gars, c'est qu'ils puissent goûter. Et quelquefois, notamment quand on était dans des festivals jours de fête, je leur proposais d'aller à un petit morceau de tel spectacle.
Oui.
Et je me souviens qu'ils ne connaissaient pas Calypso Rose, par exemple, qui est un mélange de reggae, d'une mamie qui est juste incroyable. Je leur dis, allez un petit peu. Et donc forcément, ils sont allés un petit peu et ils sont restés jusqu'à la fin. Et puis, il y a eu des choses en danse, par exemple, que je les invitais à aller voir et qui m'ont dit, plus jamais ça. Mais ce n'est pas grave. Ça fait partie d'un parcours culturel, d'un parcours d'émancipation, d'un parcours de transmission. En revanche, Mathieu, je suis allé voir son travail depuis les quelques années qu'il pratique, conservatoire à Nantes, les cours Florent, et puis maintenant, il est en Belgique, à Mons. Ça se construit de belle manière, ce qu'il propose et ce qu'il vit. C'est une expérience humaine aussi, une école de dramatique.
Ben oui,
c'est
oui,
ça
oui.
qui importe.
D'accord.
Et dans les transmissions, l'autre clin d'œil, puisque on est aussi sur un moment où tu parles de politique, je termine mon dernier mandat en mars, tu l'as souligné,
oui.
Et mon aîné va se présenter pour la première fois à une liste municipale, même s'il y a quelques années, il avait été déjà candidat à une autre élection.
Eh bien voilà, la boucle est bouclée. Et donc, alors peut-être en guise de conclusion, j'aurais envie de te demander, tu l'as dit, tu raccroches les gants en mars, si tu avais une forme de bilan à faire de tout ce que tu as vécu en tant que citoyen engagé, en tant qu'élu écologiste et surtout en tant que un des artisans de la culture. Quel bilan tu portes aujourd'hui sur comment se porte la culture et aussi quels conseils tu pourrais donner à quelqu'un qui rentre sur ces terrains-là de l'engagement citoyen et de l'action culturelle?
Alors déjà, pour durer aussi longtemps, il faut de l'accompagnement. Donc j'ai la chance de vivre avec Catherine et elle participe à cet engagement depuis longtemps, mais aussi d'autres compagnonnages avec des compagnons de longue date, avec qui on peut penser, avec qui on peut partager des lectures, et peut-être, je souligne dans ce qui m'oxygène, la place de la philosophie et de la poésie, qui participent à l'émerveillement l'un et l'autre et qui sont indispensables. Mais il faut s'oxygéner pour ne pas être asséché par notamment l'action politique. L'action citoyenne, elle a un rythme moins frénétique et donc permet assez régulièrement, dans un repas partagé, dans une rencontre amicale, de se ressourcer. En revanche, puisque j'ai parler de ces rencontres citoyennes, ça c'est indispensable comme carburant dans mon parcours. Si il n'y avait plus ces contacts au quotidien avec des gens qui m'interpellent, qui me font leur forme de transmission dans les questions qu'ils posent, dans les témoignages qu'ils apportent, je ne serais pas celui que je suis. Donc ça c'est important dans ce que je pourrais transmettre en guise de suggestion, sortez de votre maison,
oui.
Allez vous frotter aux gens et à la ville, à la campagne aussi, cabossez-vous, ne niez pas que nous sommes des êtres fragiles, ne vous estimez pas être surhumain. Nous sommes très fragiles, mais c'est dans cette fragilité-là que naît la création.
Bien sûr.
C'est pas dans la certitude, c'est dans l'incertitude que se créent les plus belles choses. Et aller voir des productions, du théâtre dépouillé, des artistes en one man show, vraiment passer ce temps à rencontrer, à écouter, à humer, à savourer.
Bah, sur ces belles paroles, Jean-François, je te remercie d'avoir participé à cet épisode. Ton parcours, il représente bien ce que tu es aujourd'hui. Je te remercie.
Merci, Manuelo. Merci à l'émission.
Voilà, ce deuxième épisode dans Créa est désormais terminé. Si vous avez apprécié l'émission sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour ceux qui sont déjà abonnés, à lâcher des likes, bref, vous connaissez la chanson. Vous pouvez aussi me retrouver en audio sur toutes les plateformes de streaming. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.